Et je vais commencer par une question. Ce message, est-ce que vous savez pourquoi j'ai confiance dans la Bible ? Marie-Claire dit, c'est la parole de Dieu. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres réponses ? Est-ce que, pourquoi vous avez confiance dans la Bible ? C'est l'espoir, s'y trouve effectivement. Alors je vous livre ma réponse, hein. Elle n'est pas parfaite, ce n'est pas la réponse à avoir, mais elle est celle réponse qui m'encourage et qui me, oui, qui m'encourage à avoir confiance en cette parole, c'est qu'il y a des histoires étranges dans cette Bible. Et je me dis, si ça avait été moi, si Dieu m'avait utilisé pour rédiger sa parole de Dieu, je n'aurais pas fait les choses de la même manière. Et je n'aurais même pas présenté, peut-être même, Jésus de la même manière. Il y a des textes un peu étranges. Et c'est ce texte étrange, un de ces textes étranges que j'apprécie, que je voudrais vous inviter à lire avec moi. Un texte qui va peut-être vous déranger et nous déranger, si vous n'êtes pas habitué à lire l'Évangile, et si vous êtes habitué aussi, peut-être ça va vous déranger également. Il se trouve dans l'Évangile de Marc, au chapitre 11. Jésus vient d'entrer dans Jérusalem avec des cris et des acclamations. Tout le monde était heureux de le voir, un peu comme nous ce matin. Et puis, voilà, qu'il rentre dans Jérusalem, qu'il va visiter l'église de le temple de Jérusalem. Et puis, le lendemain, nous dit l'évangile de Marc, au verset 12, « Comme il sortait de Béthanie, avec eux, il eut faim. » Il vient juste de sortir de la maison de Lazare, de Marthe et Marie, vraisemblablement, et il a déjà faim, Jésus. Il aperçut de loin un figuier couvert de feuillage. Il se dirigea vers cet arbre pour voir s'il s'y trouverait quelques fruits. Quand il se fut approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. S'adressant alors au figuier, il lui dit que plus jamais personne ne mange de fruits venant de toi. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem. Jésus entra dans la cour du temple et se mit à en chasser les marchands qui s'étaient installés dans l'enceinte sacrée, ainsi que leurs clients. Il renversa les comptoirs des changeurs d'argent, ainsi que les chaises des marchands de pigeons. Il ne laissa personne transporter des marchandises dans l'enceinte du temple. Puis, s'adressant à tous, il les enseigna en disant, « N'est-il pas écrit, on appellera ma maison une maison de prière pour tous les peuples. Mais vous, vous en avez fait un repaire de brigands. » Le chef des prêtres et les spécialistes de la loi apprirent ce qui s'était passé et ils cherchèrent un moyen de le faire mourir. En effet, ils craignaient son influence car son enseignement faisait une vive impression sur la foule. Le soir venu, Jésus et ses disciples quittèrent la ville. Verset 20. Le lendemain matin, en passant par là, ils virent le figuier. Il avait séché jusqu'aux racines. Pierre, se souvenant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Maître, regarde le figuier que tu as maudit. Il est devenu tout sec. » Jésus répondit, « Ayez foi en Dieu. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, « Soulève-toi de là et jette-toi dans la mer », sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il va se réaliser se réalise, alors la chose s'accomplira pour lui. C'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous demanderez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui pour que votre Père céleste vous pardonne lui aussi vos fautes. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Dieu et Père, quelle grâce que ta parole, quelle grâce que ton esprit qui va maintenant nous éclairer à comprendre ce que Jésus veut nous enseigner. Seigneur, éclaire nos cœurs, brise nos chaînes, aplanis ce qui pourrait nous empêcher de nous approcher de toi. Amen. Alors, je n'ai pas été voir le spectacle sur Jésus, et je ne sais pas de quelle façon il est présenté dans ce spectacle. Ici, nous n'avons pas un Jésus qui chante. Un Jésus qui nous met quand même un peu mal à l'aise. Je ne sais pas vous, mais moi, oui. Un Jésus qui parle à un pauvre arbre, qui n'a eu comme seul tort de ne pas avoir de fruits. Un Jésus qui rentre dans le lieu sacré et qui saccage tout. Un Jésus qui affirme sur la prière « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous sera accordé. » Je ne sais pas vous, mais moi, maintes fois, j'ai prié pour un certain nombre de choses, en croyant et en voulant le recevoir, mais je ne l'ai pas reçu. Ou du moins pas toujours. J'ai reçu Élodie, mon épouse, par exemple. Mais je n'ai pas encore reçu de Ferrari rouge, par exemple. Bref, nous avons là un drôle de Jésus quand même. Avec des grandes affirmations qui sont un petit bien optimistes, mais un brin surréaliste, je trouve. Mais je voudrais vous inviter juste à revenir un tout petit peu dans le contexte pour comprendre ce que Jésus est en train de nous dire et ce qu'il est en train de faire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Jésus est rentré triomphalement dans Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il a été acclamé? Il rentre dans le temple de Jérusalem. Il y passe un certain nombre de temps, il observe tout, dit le texte. Puis, il se rend à Béthanie pour y être hébergé, vraisemblablement chez Marthe, Marie et Lazare. Et puis, il revient le lendemain. Je pense qu'il n'était pas forcément bon d'aller manger chez Marthe et Marie et Lazare, tant le menu semble assez frugal. Hein. Jésus a eu faim en arrivant à Jérusalem. Alors il s'approche d'un figuier extraordinaire. Alors là, ce n'est pas des figuiers, hein, mais ce n'est pas beaucoup de feuilles quand même. Hein. Mais il faut imaginer un figuier avec plein de feuilles. Extraordinaire, belle, alléchante. Il soulève ce beau feuillage, mais n'y trouve rien. Et il a cette parole de déception, de dépit, cette parole brutale, définitive, que plus jamais personne ne mange le fruit de toi, qui viendra de toi. Parole terrible. Pauvre figuier, il n'a rien demandé, lui. Il est planté là, tranquille. Comment comprendre? Est-ce que vous savez quand est-ce que Jésus a eu faim? Avant cet épisode, lors de la tentation dans le désert, le diable dit, t'as faim, fais-toi une bonne soupe de cailloux. Enfin, tu demandes d'abord aux cailloux de se transformer en pain. Si tu es le Fils de Dieu, tu peux le faire. Est-ce que Jésus, alors que l'ombre de la croix est en train de planer, d'avancer, est-ce qu'il est en train de craquer? Qu'a-t-il répondu au diable? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Mais ici, c'est des figues, quoi. Des figues. Parce que du pain sec, ok, mais des figues. Est-ce que c'est cela que veut nous dire notre texte? Est-ce que nous aurions là ce Jésus un peu à la manière, qui serait décrit un peu à la manière des écrits apocryphes, qui nous décrivent un Jésus un peu tendancieux? Un Jésus que, quand il était enfant, se fait heurter l'épaule par un camarade, et qu'est-ce qu'il fait? Il le maudit et il tombe mort. Est-ce que c'est cela que Jésus veut nous dire? Heureusement, chers amis, heureusement, ce n'est pas tout à fait le cas. Peut-être que vous soufflez, je vous rassure, ce n'est pas tout à fait ça que le texte veut nous dire. Et Marc nous donne deux éléments, deux indices pour nous aider à comprendre le texte un peu autrement. La première clé, la première mention, c'est une leçon de botanique. Jésus, c'est normal que tu ne trouves pas de figues, verset 13, parce que ce n'était pas la saison. Et le deuxième indice. La deuxième clé, c'est la façon dont Marc a construit ce texte. Vous avez remarqué que le récit sur le figuier est coupé en deux. Et qu'au milieu, il y a cet épisode où Jésus rentre dans le temple et il rentre dans le temple. Vous avez remarqué ça? Alors la première clé, je n'ai pas la main verte, je peux vous l'affirmer, mais juste quelques éléments de botanique pour un tout petit peu comprendre les choses. On m'a déjà offert plein de fois des plantes. Malheureusement, leur feuillage n'a pas été aussi dru que ce pauvre figuier. Cela étant dit, à cette époque, un figuier avait des figues toute l'année. La période de récolte était en automne, et au printemps, il n'était pas rare d'y trouver des petites figues vertes, promesse d'une belle récolte. Selon un naturaliste de cette époque, le figuier qui porte d'abord des fruits avant que poussent les feuilles. Bon là, ça n'a pas beaucoup marché. Jésus aurait pu donc s'attendre à trouver certes des figues vertes, mais bon, il n'y a rien. Comment Jésus aurait-il dû agir face à ce figuier stérile? Faute de vin, il transforme de l'eau en vin. Au manque de pain et de poisson, il le multiplie. À la tempête qui fait rage, il l'apaise. Oh Jésus, tu aurais pu faire pousser des figues, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ce que Jésus fait. Parce que s'il l'avait fait, il aurait utilisé ses prérogatives divines, ses pouvoirs divins pour son propre intérêt, pour apaiser sa faim. Alors il prononce cette parole terrible, « Que plus jamais personne ne mange un fruit de toi. » Et c'est la fin de la raison d'être de ce figuier. À quoi sert un arbre fruitier qui ne porte pas de fruits? À rien. Peut-être à décorer, mais fondamentalement à rien. Jésus, tu as cueilli ou tenté de cueillir des figues sur ce figuier, mais ce n'était pas la saison. Alors c'est normal que tu ne trouves pas des figues bonnes à manger, peut-être des vertes. Peut-être si on a très faim, on serait prêt à manger ça. Mais c'est normal. Aussi, Marc nous invite à aller voir un petit peu plus loin dans notre compréhension et à voir dans cette construction en sandwich de cet épisode du figuier, le pain du dessus, le pain du dessous et la... Enfin, vous y mettez ce que vous voulez entre les deux, hein, saucisse ou steak haché ou je ne sais quoi. Ça, c'est l'épisode où Jésus chasse les vendeurs du temple. Et qu'est-ce que fait Jésus? C'est quand même un drôle de Jésus, quoi. Il faut imaginer qu'il rentre ici, qu'il nous voit et qu'il renverse les chaises, les tables. Alors bien sûr, dans le temple de Jérusalem, il se passait un certain nombre de choses. Et c'est cela le sens qu'il faut y voir ici. Qu'est-ce que fait Jésus? La veille, il a regardé. Il a observé. Ce temple de Jérusalem. Il a tout regardé. Tout regardé. Oh, il a vu du monde. Du fouillis de monde. Il a vu des gens aller venir faire des sacrifices, faire des échanges. Il a vu un bel édifice majestueux, extraordinaire, des rituels bien huilés. Il a vu un beau lieu sacré. Mais finalement, qu'a-t-il vu? Rien. Ou du moins, pas ce qu'il attendait. Il y avait certes un fouillis de monde, des feuilles bien remplies, bien belles en apparence, sapées comme jamais, mais des cœurs consacrés à Dieu. Des gens qui entretiennent une relation profonde et sincère avec Dieu, il n'en a pas vu beaucoup. Oh, il y avait peut-être cette petite veuve-là qui a donné cette dernière pièce, tout ce qu'elle avait. Il y avait peut-être ce pécheur notoire qui avait tellement honte de son péché qu'il n'avait même pas le courage, l'audace de lever la tête pour regarder vers Dieu. Il a vu plein de feuilles, mais peu ou pas de fruits. Et c'est là ce que le Christ nous dit. C'est là ce que le Christ a fait avec ce figuier. Un geste symbolique à la manière des prophètes d'autrefois. Parole de jugement terrible. Plus personne n'utilisera bientôt le temple de Jérusalem pour recevoir le pardon de Dieu, pour recevoir son amour. Parce qu'il y a quelque chose qui va changer bientôt, dit Jésus. Il y a quelque chose qui va changer. C'est que cette relation d'amour authentique et profonde va devenir concrète. Alors, il faudrait bien sûr nous garder de regarder avec distance ce texte en nous disant « Oh, ça concerne juste Israël de l'époque, n'est-ce pas ? Nous, on est bien. Eux, ils étaient religieux, nous ne le sommes pas. » Mais il y a cette parole terrible de Dieu, en Michée, qui anticipe quelque part ce que Jésus est en train de faire. Michée 7 et verset 1. Quel malheur pour moi. Je suis comme à la récolte des fruits d'été, comme au grappillage après la vendange. Pas une grappe à manger. Pas une de ces figues précoces que je désire. Il n'y a pas de fruits, nous dit Dieu. C'est terrible quand même que cette parole. Terrible. Plus personne jamais ne mangera de ce figuier. Elle est terrible, cette parole de jugement. Mais en même temps, elle nous éclaire sur l'espérance que le Christ est venu annoncer. Et ça, c'est la suite du texte qui nous le donne. Lorsque Pierre et les disciples repassent devant ce figuier, Pierre dit, Jésus, tu te souviens là ? C'est ce figuier que tu as maudit ? Maudit. Eh bien, il est tout sec, de la racine jusqu'au sommet. Et que fait Jésus ? Il s'arrête, et au lieu de dire, c'est comme ça, c'est la vie, il avait qu'à produire des figues, ce figuier, quoi. Qu'est-ce qu'il fait ? Alors que les disciples sont là, super ! La parole de Jésus est efficace, comme celle de Dieu, Ésaïe 55, verset 10. Ma parole ne revient jamais sans effet. Waouh ! Extraordinaire ! Jésus dit, les disciples, là, ne vous arrêtez pas là. Mais ayez confiance. Ayez confiance en ce même Dieu qui a agi là. Ayez cette foi. Ayez cette foi, une foi absolue, une foi incroyable, comme cette maman qui avait un enfant atteint d'une leucémie. Son petit garçon avait 2 ans quand ils ont découvert la maladie et il a été hospitalisé alors qu'il avait 3 ans. C'était un peu l'opération de la dernière chance. Elle a été le voir le meilleur des meilleurs des meilleurs des médecins. Dans le meilleur des meilleurs des meilleurs des hôpitaux. Et le pronostic du médecin dit, c'est du 50-50. Et il faut imaginer le cœur de cette maman. Tous ces tests sanguins, toutes ces visites interminables à la clinique, tous ces médicaments injectés dans le petit corps de son fils, la peur, la douleur. Mais quand vient l'opération, voici ce qu'elle dit à son petit garçon. Si ça te fait mal, mon fils, souviens-toi que c'est parce que ce médecin t'aime et qu'il veut le meilleur pour toi. L'opération a été horrible. Il a fallu 3 infirmières pour tenir l'enfant. Il était rempli de sueur et de larmes. Alors, une fois que l'opération a été terminée, il a levé les yeux vers le docteur et il a dit « Merci, docteur, pour ma douleur. » Une confiance absolue, totale, de cette maman qui se transmet d'une certaine façon à son enfant. Ne restez pas devant le figuier, ne restez pas devant une action extraordinaire de Dieu. Ce que Dieu veut, ce ne soyez pas que vous soyez spectateur, mais que vous ayez confiance en lui. Ayez confiance. Une confiance qui déplace les montagnes. Sans oublier qu'il les déplace, n'est-ce pas? Ayez confiance, dit Jésus. Face à nos montagnes, à vos montagnes qui nous séparent même parfois de Dieu, à nos montagnes de péché, nos montagnes de soucis, nos montagnes de richesse peut-être, à toutes ces choses qui sont tapies dans le fond de nos cœurs et qui s'accumulent et qui parfois peut-être nous empêchent de nous approcher de Dieu en nous disant « Mais t'as vu tout ce que t'as fait ? La montagne est immense. La montagne est immense. » Mais Dieu dit « Ne recule pas. Aie confiance. » Ne fais pas demi-tour devant cette montagne. C'est cette montagne qui doit bouger. Parce que Dieu le veut. Dieu le peut. Alors, pour conclure, nous n'avons pas là un portrait d'un Jésus très lisse, n'est-ce pas ? Très bucolique. Et encore une fois, je ne sais pas comment Obispo l'a dépeint. Mais quand même, alors que nous arrivons à la fin de notre méditation ensemble, je vous pose 2 questions. Est-ce que nous avons finalement affaire ici à un Jésus capricieux, qui, ayant eu faim, n'ayant pas trouvé de figues ? Personne ne dit non. Vous êtes quand même incroyable, hein ? Est-ce que nous avons ici affaire à un Jésus capricieux ? Bien sûr que non. Un Jésus en colère. Ah, c'est plus mitigé, là. Eh bien, oui. Oui. Nous avons un Jésus ici en colère. En colère contre toutes ces choses qui se dressent entre Dieu et nous. Ici, c'est la superficialité religieuse, le bel apparat. Oh, je prie très fort, je chante très bien, je joue bien de la musique. Mais là, c'est pourri. Les montagnes qui se mettent entre Dieu et nous. Les soucis, les richesses. Et des fois, ça peut venir de nous, hein, notre orgueil, notre immoralité. Toutes ces choses bizarres qui s'accumulent. Et Dieu, Jésus est en colère contre ces montagnes-là, car elles nous empêchent d'accéder à Dieu et à son amour. Alors oui, il est en colère contre cela. Mais en même temps, il nous invite à avoir la foi, la confiance que lui, à la croix, a tout fait pour que cette montagne soit mise de côté, et que nous puissions accéder à l'amour de Dieu. Vous le savez peut-être, et ça se voit peut-être un peu à mes yeux, je reviens de la Costette avec 20 de nos jeunes, les plus courageux sont là, et ça c'est extra. Et vous savez pourquoi j'aime aller à la Costette ? On n'y mange pas des figues, mais on y mange relativement bien. On dort peu, certains ronflent, mais il y a une chose, et c'est toujours la même chose. Ça fait 2 fois que je vais à la Costette. toujours la même chose, qui me disent « ça, c'est super à voir ». Ça ne dure pas forcément très longtemps. Ça s'est passé, je crois, jeudi, vendredi soir. 275 jeunes sont réunis. Un monsieur présente l'amour de Dieu à ces jeunes, avec un langage assez direct. Et leur dit, malgré toutes les montagnes de péchés, de choses qui vous tordent à l'intérieur, qui vous empêcheraient de croire que vous êtes aimé de Dieu, Dieu vous aime si puissamment qu'il a tout réglé. Et de voir, alors je n'ai pas compté, hein, sur ces 275 jeunes, à l'appel de l'amour de Dieu, des jeunes se lever et dire « Oui, Jésus, je veux vivre pour toi ». Ça, c'est la raison pour laquelle j'aime aller à la Costette. De voir l'amour de Dieu pour ces jeunes et ces jeunes qui y répondent. Et il faut prier pour ces jeunes, chers amis. Ils sont l'Église, pas de demain, mais d'aujourd'hui. Et il faut les prier pour eux et les encourager, les fortifier. Alors ce texte nous invite à cette espérance-là, à la joie. Mais en même temps, en tant qu'Église, il nous interroge un tout petit peu. Nous, Église, et nous autres, quels que nous soyons, Jésus est venu, il a vu ce figuier, il n'y a pas vu de figue. Mais nous l'avons chanté tout à l'heure, nous croyons que Jésus revient. N'est-ce pas? Est-ce que vous croyez que Jésus revient? Et qu'est-ce qu'il a dit un jour à ses disciples? Une parole terrible. Luc 18, verset 8. « Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre ?» Si Jésus revenait ce matin, que verrait-il dans son Église? Il y verrait des belles feuilles, vous êtes des belles feuilles. Trouverait-il des fruits? Est-ce qu'il trouverait des fruits pas très, 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 très beaucoup mûrs? Parce que nous n'aurons pas assez approfondi notre foi. Nous sommes restés des chrétiens du dimanche et pas des disciples qui marchent fidèlement. Alors, à la première tempête ou premier souci, notre cœur se sera flétri, desséché. Est-ce qu'il trouvera des fruits verts et un petit peu amers? Parce que nous avons tant de fois du mal à pardonner, parce que nous avons laissé l'amertume et l'aigreur régner dans nos cœurs. Ou au contraire, trouvera-t-il des gens passionnés pour lui, pleins de foi, prêts à prier, à pardonner? Trouvera-t-il la foi encore? Mais chers amis, ça nous interpelle aussi sur notre mission. Parce que c'est sur la terre dont la foi est mise en question ici. Chers amis, pour terminer, quelle que soit votre situation, quelles que soient les montagnes qui sont devant vous et qui vous semblent peut-être inamovibles, n'oubliez pas ce que dit Dieu, ce que vous dit Dieu, ce que Dieu te dit ce matin, je t'aime. Face à cette montagne, ne recule pas, mais aie confiance. Viens vers moi, car je peux aplanir cette montagne. Et je le veux. J'ai envoyé Jésus pour cela. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen.